This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Alors, avant de démarrer l'épisode, j'ai un petit message à vous faire passer et qui va particulièrement intéresser tous ceux qui se sentent souvent fatigués, épuisés et qui aimeraient retrouver toute leur énergie. Vous connaissez Jack, il était mon invité sur l'épisode 182 et vous aviez adoré l'épisode que j'avais fait avec lui. 90 000 vues sur YouTube, des dizaines de milliers d'écoutes sur Spotify, des chiffres hallucinants pour un épisode technique. Et bien figurez-vous que Jack, il a longtemps lutté contre la fatigue chronique, contre les coups de mou, contre cette sensation d'être constamment épuisé dans sa journée. Et bien devinez quoi, il a réussi à transformer sa vie en appliquant les bonnes méthodes et des techniques simples et efficaces. Et il a créé une formation qui est révolutionnaire et qui s'appelle 30 jours énergie. Elle permet de retrouver sa vitalité et sa motivation en seulement 30 jours. Et j'ai eu l'occasion de découvrir et de suivre ce programme de formation en intégralité. Et je dois dire qu'il est assez impressionnant et extrêmement qualitatif. On y retrouve des techniques pour améliorer son alimentation, pour améliorer son sommeil, pour gérer son énergie. Et franchement, il y a des astuces auxquelles on n'aurait pas pensé. Certaines qui sont vraiment novatrices et je les ai découvertes au fur et à mesure de la formation. Et en plus, Jack, il explique super bien, il est passionné par son sujet et il transmet ça à merveille. Et aujourd'hui, je vous propose, vous aussi, de découvrir le programme 30 jours énergie. On en a longuement parlé avec Jack et on a décidé de vous faire un super cadeau. Alors, vous connaissez mon talent pour la négoce et en tant qu'auditeur du podcast, Jack a accepté de vous offrir une réduction de 100€ sur le prix de la formation. Et pour en profiter, c'est très simple. Vous allez dans la description de n'importe quel épisode, vous cliquez sur le dernier lien qui correspond normalement à la lettre, mais vous serez redirigé vers la formation. Et vous pouvez aussi retrouver la page en tapant directement dans votre barre de recherche biomecaniquepodcast.com/énergie. Cette offre, elle est valable uniquement cette semaine, alors ne la manquez pas. C'est une opportunité en or pour dire adieu à la fatigue et retrouver une énergie constante. Par exemple, vous allez notamment apprendre comment modifier vos repas pour booster votre énergie, comment avoir un sommeil plus réparateur, quelles sont les méthodes les plus efficaces aujourd'hui pour gérer son énergie au quotidien, quels sont les meilleurs compléments à prendre. Bref, c'est rempli de conseils pratiques, de routines simples et d'astuces qui sont efficaces pour que vous puissiez vous sentir au top de votre forme. Et en plus, Jack, il est tellement confiant dans l'efficacité de sa méthode qu'il vous offre une garantie. Si vous ne voyez pas d'amélioration dans votre énergie dans les 30 jours, vous serez remboursé intégralement. Vous avez donc absolument rien à perdre. Donc, je répète une dernière fois, vous cliquez sur le dernier lien qui se trouve en description de l'épisode ou alors vous tapez biomecaniquepodcast.com/énergie dans votre barre de recherche et vous aurez la réduction de 100€ sur la formation. La promo se termine dimanche prochain, le 26 mai. Traînez pas et maintenant, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à améliorer vos entraînements, à diminuer vos blessures, vos risques de blessures et découvrir les secrets des sportifs, des athlètes et des pratiquants de musculation remarquables. Ici on y parle entraînement, performance, blessures, motivation et santé du sportif bien évidemment, et à chaque fois avec des invités exceptionnels. Alors, je m'appelle Jérôme Cazerolle, je suis ostéopathe à Montréal, toujours, et dans son 11e épisode je reçois Maître Cal, qui s'est fait connaître du public sur YouTube particulièrement, où il publie souvent des vidéos qui concernent la musculation, l'entraînement, et aussi des analyses sur des physiques d'athlètes et des influenceurs autour du milieu du fitness et de la musculation, à savoir si un athlète est potentiellement naturel ou s'il a utilisé des produits dopants selon son évolution, selon certains signes physiques. Alors ça fait un petit peu débat sur le milieu du fitness, en tout cas sur les réseaux sociaux. De l'autre côté du spectre, on va dire, on a certaines personnes qui dénoncent cette chasse au dopé, notamment parce que c'est la mode de parler de dopage, de parler de stéroïdes, de savoir si un athlète est dopé, s'il est naturel. Évidemment, on ne saura jamais si un sportif ou un athlète il est dopé. Il y a évidemment des signes qui peuvent mettre sur la voie, mais la vraie problématique n'est peut-être pas de savoir si l'athlète en question utilise des substances anabolisantes interdites
ou s'il est complètement naturel, c'est-à-dire qu'il n'a jamais utilisé de stéroïdes. La vraie question est de savoir s'il se prétend naturel, alors qu'en fait, il ne l'est peut-être pas. Est-ce que certains physiques, qui sont incroyables, extrêmement esthétiques et très développés, ne sont en fait pas obtenus de manière naturelle, et ces personnes-là essayent de vous vendre des programmes ou en tout cas des exercices magiques qui vous promettent ce genre de physique. La vraie question, elle est là. Je trouvais intéressant d'avoir le point de vue de Maître Cal par rapport à ce sujet. Et en tout cas, toutes ces raisons-là, j'en ai évoqué une, mais il y en a évidemment plusieurs. Toutes ces raisons qui le poussent à dénoncer ce qu'il appelle des vendeurs de rêves, dénoncer cette hypocrisie dans le fitness, dans la musculation, en tout cas de certains athlètes. Et Maître Cal est apparu beaucoup plus réfléchi et sincère dans son approche du sport par rapport à ce qu'on pourrait penser à première vue. En tout cas, je retiens particulièrement son humilité tout au long de cet épisode, sa sincérité également sur certaines de mes questions, où j'aime bien creuser les sujets, j'aime bien aller en profondeur, essayer de comprendre un petit peu le pourquoi. En tout cas, comprendre mon invité, ses réelles motivations dans son contenu et dans son approche du sport. On a beaucoup parlé de stéroïdes, de vendeurs de rêves, évidemment, puisque c'était un petit peu le sujet principal. On est aussi revenu sur l'ensemble de son parcours, de ses débuts dans la musculation, jusqu'au jour où il a ouvert sa propre salle de musculation, le Spartiate Gym. Et on va passer aussi par ses motivations, ses conseils de galérien naturel, comme il l'aime le dire souvent. Et un peu plus récemment, ses débuts en compétition de bodybuilding. Mis à part tout ce qui tourne autour des effets indésirables des stéroïdes, dont on a évoqué évidemment sur ce podcast, on a aussi beaucoup parlé de santé, comment s'entraîner durement et durablement de manière naturelle, c'est-à-dire durer dans le temps, et pour ça, ça passe par de la prévention. Quel rapport entretient Maître Cal avec les thérapies alternatives et également la médecine? Est-ce qu'il est suivi en kinésithérapie? Est-ce qu'il est suivi en ostéopathie? Est-ce qu'il a eu déjà recours à ce genre de thérapie? Et de manière un petit peu plus générale, son rapport avec les professionnels de santé. Donc dans cet épisode, vous allez notamment apprendre comment Maître Cal a quitté son pays pour apprendre la musculation. Quelle a été l'idée originale lancée par un de ses abonnés à sa chaîne YouTube et qui lui a permis d'ouvrir sa salle de musculation? On va voir aussi l'histoire qui se cache derrière son pseudo, Maître Cal. Notamment, pourquoi redevenir naturel est très compliqué après avoir utilisé le dopage, en musculation en tout cas. Quelle est la réelle différence entre une évolution qui va être lente mais liée à un certain mérite, par exemple, par rapport à une explosion physique rapide? Et surtout, on a eu une petite réflexion sur ce concept de méritocratie qui est pas facile à identifier. Qui peut dire aujourd'hui qu'un athlète de renommée internationale qui a utilisé des produits dopants n'a pas mérité sa place? Donc j'ai trouvé que c'était un débat plutôt intéressant, ça pousse à la réflexion. Du côté un petit peu plus santé et prévention, Maître Cal va répondre à la question est-ce qu'il faut faire des analyses sanguines régulièrement, même quand on n'utilise pas de stéroïdes anabolisants et qu'on est naturel? Quel est l'intérêt du test d'effort, notamment pour sa santé cardiaque? Et toujours avant mes trois petites questions de fin, on va discuter de sa compétition de bodybuilding. Quelle est son histoire? Quel est son parcours? Pourquoi il a eu envie de faire cette compétition au milieu d'athlètes pas forcément tous naturels? Et quels résultats il a obtenu et quels résultats on peut espérer quand on décide de faire de la compétition en naturel? Voilà, je vais vous laisser découvrir l'épisode numéro 11 avec Maître Cal. Avant ça, évidemment, je remercie tous ceux qui ont déjà laissé une note sur Apple Podcast et qui ont laissé également un commentaire. Si vous souhaitez apporter une petite contribution au podcast biomécanique, tout simplement parce que vous l'avez aimé, vous aimez écouter ce podcast, vous aimez entendre les invités qui racontent un petit peu leur parcours et leur façon de voir les choses, alors vous pouvez tout simplement soutenir le podcast avec une action extrêmement simple et qui ne va pas vous coûter un rond, c'est mettre une évaluation sur Apple Podcast, sur le podcast biomécanique, donc une évaluation de 5 étoiles en me laissant un avis, un petit commentaire. Je sais que ça peut paraître un peu chiant, qu'on se dit qu'on le fera, qu'on peut le faire plus tard, mais vous avez juste à le faire une seule fois et ensuite c'est terminé. Moi je vois vos avis et ça me motive à continuer, et surtout ça aide à mieux référencer le podcast dans les recherches de l'application. Je vous laisse également en description le lien pour accéder à la lettre biomécanique. Vous entrez votre adresse mail, vous êtes inscrit, c'est gratuit, et vous recevez chaque épisode directement dans votre boîte mail à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode du podcast biomécanique. Également, en général, dans ces mails, j'y mets un petit peu plus d'informations, j'y mets un contexte, et puis tout ce qui est nouvelles, de nouveautés. Alors, j'aime pas trop parler de newsletter, mais en tout cas, quand j'ai des choses à communiquer, vous serez les premiers informés. Voilà. Je pense que j'ai terminé tous mes appels à l'action. Je vous laisse en compagnie de Maître Cal pour cet épisode numéro 11 du podcast Biomécanique. Quant à nous, on se retrouve à la fin de l'épisode. Maître Cal, bienvenue sur le podcast. Moi, j'aime bien poser comme première question, est-ce que tu te souviens, toi, de la première fois que tu es rentré dans une salle de sport, ta première séance de musculation
J'en ai déjà, je crois, j'en ai fait une vidéo déjà sur YouTube par rapport à ma première séance. Sachant très bien que moi, toutes mes vidéos, c'est spontané. C'est-à-dire que quand je raconte un peu mon parcours, tu vois, dans mes vidéos. C'est-à-dire que tout ce que je vis, qui est en liaison avec la muscu, tout ce qui est en rapport avec la muscu, je l'interprète dans les vidéos. Bon, ma toute première, c'était une séance bordélique. Si j'avais un double de moi qui était coach et qui a regardé la séance que j'ai faite ce jour-là, je crois qu'il n'y avait aucune logique d'entraînement dans la séance. C'est-à-dire que tu es affamé, tu es assoiffé, tu as envie de pousser, mais tu pousses n'importe comment. C'est-à-dire... aucune logique, je faisais genre pec au développé couché, je répétais à la machine et par la suite je le faisais à la barre et je le faisais aux haltères. Ça veut dire que je perdais beaucoup de temps, je répétais les mêmes exercices, je savais même pas quelle charge utiliser pour mettre sous tension mon muscle, le sentir et l'isoler, je savais pas isoler, c'est perdu. En quelque sorte, tu sais même pas est-ce que tu dois utiliser des charges libres, est-ce que tu dois utiliser des charges guidées. Il y a beaucoup de choses. T'es perdu. Mais t'avais envie, tu vois ce que je veux dire. T'as envie de pousser. Tu te dis, mais comment je dois pousser? Donc, du coup, tu fais n'importe quoi.
Je pense que c'est les problématiques que retrouvent tous les débutants quand ils démarrent. Hein. Ils font un peu n'importe quoi, mais par contre, ils ont vraiment cette envie. Et c'est dans quel contexte, toi, t'as voulu démarrer ce sport?
Oh là 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 là. Un challenge de ouf. Hein.
Est-ce que tu avais une motivation particulière ou c'était un ami qui t'avait initié ou c'était comment?
Moi, je suis un cas particulier. Moi, j'ai quitté mon pays pour apprendre la muscu. Donc déjà, c'est un challenge monstrueux déjà. J'ai quitté mon pays pour apprendre la muscu parce que nous, déjà, de base, on est trois frères et on est de base, on est maigre. Tu vois ce que je veux dire? On est tout fin, on a une génétique d'être fin. Tu vois, c'est-à-dire que quand on était jeune, on mangeait des lions... on restait fin, tu vois ce que je veux dire. Même mes frères, maintenant, ils ont 7-8 ans plus que moi. Les deux, tu les prends les deux, c'est mon physique à moi, actuel. Ça veut dire que tellement ils sont fins, tu vois, malgré qu'ils sont adultes. Moi, je ne voulais pas ressembler à mes deux frères, actuellement, comme ils sont adultes et tout ça, parce qu'ils n'ont pas fait de la muscu, ils ont fait un peu de muscu, mais ils ont lâché, tu vois. Mais moi, j'étais assidu et tout le monde à l'époque dans mon quartier me disait « Ouais, de toute façon, tu réussiras jamais en muscu. » Tous les gars du quartier disaient que je finirais toujours à être maigre, etc. Bah, je leur ai dit « Vous allez voir, moi, je vais partir en Europe, mais je vais réussir quand même à changer mon physique, chose que j'ai réussi à faire voilà, actuellement après 19 ans dans le milieu. » Ça veut dire que c'est parti d'un challenge personnel. Après, c'est un challenge de taille parce que quitter son pays, partir de la Tunisie pour venir en Europe, apprendre la muscu, c'est de la pure folie, tu vois, en quelque sorte. Bah bon. Il faut avoir des galères, tu sais, pour savourer la gloire, quoi. Voilà un peu la raison, tu vois.
Ok, et est-ce que t'as voulu en faire ton métier? Tu voulais être coach directement dès les premiers jours ou c'est venu progressivement?
Moi, la première fois que je suis rentré dans une salle où j'ai kiffé la salle en Allemagne, parce que moi, j'ai vécu en Allemagne, où j'ai tout fait là-bas, tout, les formations, tout ça. Et j'avais un mentor qui était américain, qui m'a tout appris, qui s'appelait James et tout. Quand je suis rentré dans une salle, Jérôme, je me suis dit, pourquoi pas un jour j'ouvre une salle? Mais je ne me suis pas dit demain ou après-demain ou après-après-demain ou dans un an. J'ai dit, pourquoi pas? J'avais cette envie-là. Et c'était parti tellement d'une passion qu'à un moment donné, tu deviens énormément passionné par la chose que tu te dis, j'ai envie que ça devienne mon métier. Mais ce n'était pas venu dès le début. Non, moi, de base, dès le début, je disais, ma priorité, c'est apprendre le maximum possible en muscu. Ce n'était pas la priorité de devenir le plus massif ou avoir le meilleur corps. Non, apprendre le maximum possible, avoir le maximum de bagages pour que par la suite, quand j'ouvre une structure ou quand je deviens professionnel, je ne passe pas pour un baltringue ou pour un, entre guillemets, je suis désolé du mot, mais pour un débile, tu vois, pour un mec qui ne connaît rien. Voilà, c'est comme ça.
Chose que tu essayes de dénoncer un petit peu maintenant sur ta chaîne, mais ça, on y reviendra plus tard. Ouais.
Bah, les vendeurs de rêves. Et moi, Jérôme, je pense que moi, ça fait 7-8 ans que je suis sur YouTube. Et je suis parmi les plus anciens où il n'y avait pas énormément de vendeurs de rêves à cette époque-là, mais maintenant, ça se propage, tu vois. Et ce combat, je ne vais pas dire qu'il est perdu d'avance, hein, mais on essaye, entre guillemets, de ne pas retourner la veste et de rester toujours le plus honnête possible. Parce que moi, tu sais, comme je le dis toujours dans mes slogans, si tu veux du muscle, tu chies ta race. Ou quand je dis, il n'y a que la souffrance qui paye, bah, je crois en une seule chose qui est la souffrance à 300%, la chose qui m'a aidé aujourd'hui à être là devant toi aujourd'hui, quoi.
Donc tu as été en Allemagne pour essayer de te former au plus possible. Tu voulais avoir gagné le plus d'expérience, avoir les compétences que tu jugeais importantes pour ensuite soit ouvrir une salle, soit pour transmettre.
Tout à fait.
Et c'est venu donc progressivement.
Voilà, tout à fait. Après, c'est la patience. J'étais pas. Bon, j'étais au début un peu pressé comme tout le monde. Mais à un moment donné, tu sais, avec le temps, j'ai appris à être sage et à patienter, tu vois. C'est ça. Chose que les passionnés aujourd'hui, les amateurs aujourd'hui, les débutants, n'ont pas. Ils veulent tout de suite. Et ça, c'est triste, tu vois. Après, on essaye de les canaliser, tu sais, les coachs sportifs et tout, on essaye de les canaliser parce que maintenant, c'est médiatisé, la muscu, c'est à la mode, tu vois. Quelqu'un, quand il cherche une séance d'entraînement, il va sur YouTube. Quand il veut savoir comment prendre de la masse rapidement, il y a toujours le mot « rapidement ». Il y a toujours la durée, tu vois.
Ouais, ouais, c'est l'obstacle prioritaire.
Moi, j'ai jamais eu ça. Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un qui, bon, malgré toutes les critiques que j'ai eues dans ma vie, tout ce que tu veux, tu vois, au fil du temps, j'ai appris toujours à prendre ça comme une source de force et non de faiblesse. C'est-à-dire que plus j'ai des critiques négatives, plus, tu sais, ça me rend plus motivé à avancer dans la vie, quoi. Voilà. Après.
Et alors, t'as ouvert.
Oui, dis-moi.
Ouais, bah vas-y, non, continue.
Vas-y, dis-moi.
Non, c'était pour un suivant. Donc, t'as ouvert ta salle de sport avant ou après avoir commencé ta chaîne YouTube par rapport à.
Ah non, mais ma salle de sport, elle a été ouverte grâce à mes abonnés YouTube que je ne remercierai jamais assez. Mes fidèles spartiates motivés à 300%, c'est grâce à eux parce que moi, sans les gens du YouTube. Et sans leur confiance, je ne pense pas que j'avais pu ouvrir la salle de sport. Alors pourquoi, je t'expliquerai en quelques mots rapidement. Je me suis lancé dans le projet il y a 3 ans d'ouvrir une salle de sport, sachant très bien que le projet, il y a 7 ans, il était en place, mais sauf que je n'avais pas les moyens. Alors c'est une initiative d'une personne sur YouTube qui a fait une cagnotte et qu'on a réussi avec la cagnotte à collecter dans les 20-25 000 euros qui m'ont aidé énormément à ouvrir la salle, quoi. Et c'est les abonnés de 5 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros. Voilà. Chose que je
alors
pense
ça,
que c'est...
Je savais pas, ouais.
Ah bah c'est très très rare sur YouTube. Et c'est pour ça que je dis que je ne remercierai jamais assez. Et j'en ai eu l'occasion de croiser énormément de spartiates qui sont passés dans ma salle, qui sont venus de partout, hein, de Strasbourg, de Rennes, de Marseille, de Lyon. C'est juste venu faire une séance, c'est leur salle, tu vois ce que je veux dire. Ils sont fiers d'avoir participé dans cette démarche, quoi.
Alors, une belle communauté qui t'a aidé à monter ce
ouais.
projet. Cette communauté, tu les appelles les Spartiates. On connaît un peu tes slogans à 300%, la souffrance, etc. Et j'aimerais revenir juste sur le concept du Spartiate. Comment ça t'est venu, en fait? Pourquoi tu as décidé d'appeler ta communauté les Spartiates? Et qu'est-ce que ça
alors,
signifie derrière? Est-ce qu'il y a une raison particulière?
Bien sûr, tout à fait. Tu sais, Jérôme, moi, j'ai vécu... Il y a des gens qui le connaissent très très bien, Maître Cal, parce qu'ils me suivent vraiment bien. Moi, j'ai vécu des moments de misère et de galère énormément douloureuses, tu vois, dans ma vie. Alors, un spartiate motivé à 300%, Jérôme, ce n'est pas le physique, c'est le mental. D'accord ? Quand tu te forges un mental de spartiate, ton corps y suivra. Parce que ce mental-là, pendant la séance, ton muscle ne peut plus soulever. C'est le mental qui va prendre la relève. C'est comme ça, tu sais, un spartiate motivé à 300%. Bon, moi j'ai vécu des moments, tu sais, où j'étais SDF, j'avais pas où dormir, machin, etc. Mais j'ai résisté, j'avais deux solutions. Soit je me forgeais une carapace et un mental de ouf, soit je me tirais une balle dans la tête, tu vois ce que je veux dire, et j'arrête, tu vois, tout ce qu'il y a. Donc c'était ça le truc. Donc j'ai résisté. Je me suis dit, un jour ou l'autre, je vais surmonter tout ça, et je vais m'en sortir, et puis voilà quoi. Donc, le spartiate en soi, c'est le mental, tu vois, avant tout.
Ok, bon, bah, ça me fait revenir un peu sur ton envie, à quel moment ça s'est greffé, ton envie de créer ta première vidéo YouTube et de monter ta chaîne? Est-ce que tu avais des ambitions ou des motivations spécifiques, ou c'était juste pour le partage au départ?
Alors, déjà, pour qu'on revienne au pseudo Maître Cal, et pour qu'on vienne à cette envie, une fois, je m'entraînais avec un gars qui s'appelait Jonathan. Ouais, voilà. Là, il y a 7-8 ans en arrière, on s'entraînait ensemble. Et Jonathan, il me fait « Putain, mais qu'est-ce qu'on souffre avec toi, machin, etc. Et » il me dit, il me regarde, il me fait « Putain, mais toi, t'es le maître de la souffrance. » Bah, il a lâché la phrase comme ça, tu vois, Jérôme, il a lâché comme ça, d'une façon spontanée. C'est arrivé dans ma tête, maître, calme, tu vois ce que je veux dire, maître, calme, maître de la souffrance, tu vois, c'est eu la liaison comme ça. Et à un moment donné, bon, c'était compliqué les débuts, hein, tu sais, le temps de trouver un peu la lèse-attitude devant une caméra et tout ça, c'est pas facile, hein, tu vois. Des fois, t'es pas fait pour faire des vidéos parce que tu n'arrives pas à tenir devant la caméra, tu bugs, tu bégayes, tu maîtrises pas ton sujet, etc., etc., etc.
Après, ouais, moi, et puis t'es beaucoup trop concentré sur ce que tu espères renvoyer plutôt que sur le vrai contenu que tu veux délivrer.
Voilà. Mais à un moment donné, moi, je me suis dit, partage ton expérience comme elle est, le plus naturel possible. Moi, j'ai fait des vidéos, moi, Jérôme, je suis dans la cuisine en train de faire à manger, je suis en train de danser. Tant que l'envie, elle arrive, je prends ma caméra, je dégaine la caméra, je fais la vidéo. Ça, c'est le côté spontané de Maître Cal, tu vois. C'est, j'ai pas envie de faire du chichi, du machin. Voilà, je prends une caméra, je fais le truc, je montre tout. Je montre la réalité des choses. Et là, surtout, la face qu'on essaye de cacher aujourd'hui avec tous les pseudos youtubeurs et les influenceurs, etc., c'est que la musculation, c'est pas un sport facile. Tu vois ce que je veux dire? C'est un sport, déjà, où on doit gérer beaucoup de choses et on laisse rien au hasard. C'est-à-dire que tu dois tout gérer de A à Z. Et surtout, être déterminé, assidu, régulier, tu vois, dans tes trucs. Moi, ça veut dire que, de base, c'était parti tout le temps du partage. Jusqu'à aujourd'hui, hein. Ça fait longtemps, hein. Jusqu'à aujourd'hui. Je partage tout. Je partage mon quotidien, tout. De A à Z. Donc, tu peux dire que l'intention principale, c'est le partage.
Et alors, puisque tu es le maître de la souffrance, à quoi ça ressemble un entraînement avec toi? Parce que je sais pas, les dernières fois où tu avais posté un entraînement ou quelque chose comme ça, je t'avoue que j'ai pas regardé toutes les vidéos.
Alors, je t'explique. Moi, Jérôme, j'ai deux chaînes. J'ai créé une chaîne avant qui s'appelait Maître Cal, d'accord? Et la deuxième chaîne, elle s'appelle Spartiate Muscle TV. La première chaîne, elle a été bloquée parce qu'à l'époque, je faisais des vidéos où c'est moi qui étais la révolution, entre guillemets. C'est moi qui, l'opposition du fit game, tu vois. Je faisais des vidéos, je me rappelle, quand je postais la vidéo, elle faisait 100, 200 000 vues en même pas 2-3 heures, tellement ça, c'était nouveau pour eux, tu vois, de trouver un mec qui dénonce. Tu vois. Maintenant, ça commence à être un peu une habitude. Et à cette époque-là, la chaîne Maître Cal, j'avais sorti des playlists qui s'appelaient Les entraînements de la mort et tout ça. Tu peux les trouver sur. Tu tapes Maître Cal, entraînement de la mort, spécial épaule, spécial jambes, etc. À quoi ressemble une séance? Je peux te dire qu'elle ressemble à beaucoup de souffrance. C'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Alors moi, je n'ai aucune logique d'entraînement dans le vrai sens du terme. Ça veut dire que je prends un muscle, je vais être un peu vulgaire dans le mot, je prends un muscle, je lui nique sa race pendant la séance. Jusqu'à ce que j'arrive même plus à me lever. Je sors en rampant, tu vois. Ça, c'est moi, tu vois ce que je veux dire. Les autres, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Moi, quand ça commence à tirer et je commence à vraiment voir le muscle qui est en train de me faire très mal, j'ajoute toujours une rep ou deux, parce que je pense que ces deux reps-là, c'est les plus bénéfiques du monde, tu vois. C'est pas où je commence à avoir mal, je dis stop, tu vois. Je suis pas comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, tu vois, en 19 ans, je dis, alhamdoulilah, tu vois, j'ai jamais eu de problème et je ne me suis jamais blessé. Tu vois, parce que je connais vraiment mes limites. Moins de temps de repos dans mes entraînements parce que je m'entraîne vraiment en ce qu'on appelle en circuit training. Depuis 19 ans, c'est comme ça. Malgré que ça a été critiqué, mes entraînements, tu sais, sur Internet, tu ne pourras pas prendre de la masse, blablabla. Mais chaque personne, tu sais, Jérôme, réagit différemment à la muscu. On étudie la muscu cas par cas, tu vois. Moi, en 19 ans de muscu, j'ai pris dans les 45 kilos avec cette façon-là. Bah, une autre personne, elle va prendre par exemple que 15 kilos. Une autre personne va prendre plus, une autre va prendre moins. Ça dépend. C'est ce que je veux dire. Un bon coach doit gérer tous ses élèves cas par cas. Tu vois.
Tout à l'heure, tu m'as parlé de souffrance, de patience, d'apprendre beaucoup des meilleurs, etc. Donc, tu as été plongé un peu dans le milieu là, depuis quelques années. Évidemment, la question qui peut venir en tête, c'est... Donc, tu as été au contact de personnes qui prenaient des anabolisants, j'imagine.
En Allemagne, pendant 5 ans, j'avais des colocataires qui prenaient devant moi. J'ai parlé dans une vidéo, je l'ai dit, ça.
Et qu'est-ce qui t'a... qu'est-ce qui a fait que toi, tu n'as pas voulu passer le pas à ce moment-là?
Alors, franchement, pour être honnête avec toi, oui, la tentation, elle est énorme. Hein. Tu sais, on est jeune, hein, tu vois, et tout. Mais je suis tombé sur des gens qui étaient honnêtes. Je ne suis pas tombé sur des vendeurs de rêves. Tu vois. C'est des gens, avant tout, qui disaient « Je le fais parce que j'ai envie de devenir bodybuilder pro, etc. » Ils avaient des envies dans la tête, tu vois, des idées derrière la tête. Mais... il te disait toujours qu'il y a tout se paye un jour. Ça veut dire qu'il te dit de base, fais attention parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre on va crever. Chose que eux, ils ont tous crevé, tu vois. Ils ont crevé très très jeune, tu vois. Ils ont eu des crises cardiaques, etc. Mais sauf qu'en vivant avec eux, je voyais les effets négatifs. Moi, je les voyais les effets négatifs. Être nerveux, avoir les yeux, tu sais, qui jaunissent. Avoir des problèmes, être obligé, tu sais, de passer tous les semaines, tu sais, avoir les médecins, machin, etc. Déjà, le fait juste de spiquer tout le temps, c'est une punition en soi, tu vois. Moi qui n'aime pas les piqûres, déjà, je te le dis de suite. Moi, j'ai une peur des piqûres, tu vois. Je déteste ça. Et au fil du temps, tu sais, avec mon mentor que j'ai eu, tu vois, lui aussi, tu sais, prenait des produits et tout. Mais il m'expliquait un peu les réactions chimiques et tout ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il m'expliquait, c'est qu'il y a une réaction chimique, mais elle fait un effet négatif. Cet effet négatif-là, tu ne peux pas faire un retour en arrière. Tu vois. Ça peut causer ta perte et ta santé. Donc du coup, moi j'avais un mentor qui faisait beaucoup de prévention et je pense que ses paroles à lui, c'est ça qui m'a retenu de ne pas plonger dans le monde obscur, tu vois.
Même si tu savais les bénéfices énormes, enfin les bénéfices que tu allais pouvoir en tirer, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui joue plus dans la balance. Parce que sur internet maintenant tu trouves à peu près tout sur les effets positifs, les effets indésirables.
Ouais, ouais.
Mais visiblement, tant qu'il y a des jeunes de 17-20 ans, on ne citera personne, mais tu vois un petit peu de qui je veux parler.
Ouais, ouais.
Tant qu'il y aura ces jeunes-là en fait, qui prendront, qui feront des cures de stéroïdes, visiblement, c'est que la balance penche plus actuellement sur les effets positifs. Quoi.
Oui, mais...
Dans la tête, en tout cas. Enfin, je ne suis absolument pas d'accord avec ça, évidemment, mais malheureusement, c'est un fait. Quoi. Ça veut dire que les effets négatifs ne sont pas assez pris peut-être au sérieux ou en considération.
Mais bon, soyons honnêtes. Là, on fait des trucs qui ne sont pas naturels à nous. Chaque chose qui n'est pas naturelle, tu fais rentrer en ton corps un objet qui n'est pas naturel, tu vois, un objet étranger, tu vois, chimique. Penses-tu que le jour où tu abuses de la chose, tu ne vas pas avoir des conséquences graves, obligées, tu vois. À un moment donné, tu vas le payer. Maintenant, un petit jeune, tu vois, qui est bourré de testo de base, naturellement, Jérôme, tu lui ajoutes encore de la testo synthétique et tout ça, tu vois. Mais hormonalement parlant, je crois qu'il pourra régler sa testo. Ça doit être très, très compliqué pour lui. Hein, tu vois. Donc, il va avoir tellement un surdose, tu sais, de testo. Bon, il va éclater, tu vois. Il va faire beaucoup, beaucoup de masse, comme tu as dit, des gains, tu vois, entre guillemets. Mais le jour où il n'a pas ça, penses-tu qu'il va continuer dans cette évolution ou il va régresser? C'est ça la question, tu vois. Donc, si tu rentres dans ce milieu-là, surtout jeune, il y a un risque énorme que tu restes tout le temps dedans et à vouloir plus, tu vois. Et là, par contre, tu seras condamné, quoi.
C'est ça, tu seras condamné. Et puis, il y a vraiment cet aspect, visiblement, que s'entraîner après avoir touché un petit peu le Graal comme ça, ça devient complètement fade.
Bah, tu n'as plus envie, hein. Tu seras dégoûté, tu n'as plus envie de faire de la muscu naturellement, c'est compliqué, tu vois. Je crois que les naturels maintenant, de toute façon, les naturels, nous, quand on fait du body surtout, etc., se lancer dans des compétitions avec des dopés sur la scène, c'est de la pure folie aussi. Tu vois, soit tu as des couilles énormes, c'est-à-dire que tu as un mental de ouf, ou soit tu n'as pas de niveau du tout et tu vas passer pour un ridicule. Voilà.
Et toi, tu as fait donc une compétition naturelle, on y reviendra un petit peu plus tard, parce ouais. que j'aimerais qu'on en discute. Mais avant ça, pour rester un peu dans le thème, toi, en fait, tu t'es fait surtout connaître, tu vas me dire si je me trompe, sur YouTube, parce que tu as fait des vidéos d'analyse de physique.
Ouais.
Naturel ou pas naturel.
Voilà.
Déjà, première question moi, que je m'étais notée, parce que je voulais savoir, quand tu décides de parler d'un athlète, par exemple, un athlète français, américain, peu importe, et que tu veux faire son analyse pour savoir si, s'il serait naturel ou pas, est-ce que ce sont tes abonnés qui te demandent ou c'est toi?
C'est mes abonnés. Ah, mais franchement, je vais te dire un truc. Moi, j'ai plus le. Tous les sujets que j'aborde, 90% c'est mes abonnés. Tu envoies un message, ils te disent analyse ça, ils te donnent des idées. À tous les idées, ils viennent de chez eux. Maintenant, de toute façon, c'était ça. Ils m'envoient des messages comme ça, et puis voilà, je fais, jusqu'à... Voilà. Le jour où j'aurai plus rien à partager, bah, j'arrêterai YouTube. Hein. Voilà.
Ouais, c'est un truc qui est énormément à la mode, en plus, de parler d'athlètes, d'influenceurs, de savoir s'ils ont pris des produits ou pas. Bon, je suis pas là pour juger ou quoi, mais pourquoi tu as décidé de faire ces vidéos-là, de dénoncer des athlètes, déjà, pourquoi tu as commencé, en fait
Je t'explique, parce que à force que les jeunes, Jérôme, ils regardent ces influenceurs-là, ces athlètes, c'est tout ce que tu veux, ils ont oublié la vraie réalité du mot naturel, une évolution naturelle. C'est-à-dire quand tu vois un mec en 6 mois qui éclate, qui te prend 15-20 kilos de muscles secs, le jeune, il pense que ça, c'est la vraie réalité de la muscu. Sauf que son meilleur ami qui a chié sa race pendant 6 mois, il n'a même pas pris 4 kilos. Limite, il n'a pas changé. Il se fout de sa gueule. Moi, je dis non, stop. C'est pour ça, moi, j'arrive pour ouvrir un peu les yeux à ces gens-là.
Et qu'est-ce qui te fait continuer aujourd'hui? C'est toujours cette même raison. Je ne sais plus quand date peut-être tes dernières vidéos là-dessus. Mais...
Alors, moi, je t'explique. Toujours, moi, c'est dans l'honnêteté, ouvrir les yeux des gens. Tu sais, le foutage de gueule, les pseudo-coach, les pseudo-évolutions, les gains qui ne sont pas de qualité, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu les vois de toute façon, tu vois les mecs qui te font des zigzags, on dirait. Il explose aujourd'hui, dans 6 mois, il est maigre. Après, il explose, après, il est maigre. Un mec qui est naturel et qui s'entraîne vraiment bien, Jérôme, il arrive à entretenir sa masse musculaire quoi qu'il arrive et à rester à peu près pareil ou à changer doucement, tu vois. Mais t'éclates sur des phases, genre 3 mois, t'éclates. Après 3 mois, tu sèches solide. Après 3 mois, tu exploses. Ouais, mais ça ne fonctionne pas, la muscu comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Pour un naturel. Je veux dire, je suis mieux placé parce que ça fait 19 ans que je pousse naturellement. Je sais très bien comment ça fonctionne. Et moi, ça m'a pris énormément de temps pour comprendre mon métabolisme. Quand je vois des jeunes qui sont pressés, qui n'ont même pas fait un an, qui te disent « Ah ouais, mais je stagne et j'ai envie de passer dans le monde obscur », je dis, attends Coco, tu ne connais même pas encore comment il fonctionne. Tu as déjà, tu as mis juste 10%, ton pied 10% dans la vérité, tu vois. Attends encore un peu et tu verras, tu sais, comment ça va fonctionner ton métabolisme.
Ça rejoint, alors c'est marrant parce que c'est des discours qui sont un petit peu parfois à l'opposé, mais finalement qui se rejoignent assez sur les grandes lignes communes. Par exemple, dans un épisode précédent, quand j'ai reçu Luis Alberto, Pinto Sanchez, lui, il... On va dire qu'il n'aime pas cette histoire de chasse aux dopés et en fait, il trouve ça regrettable de perdre du temps à essayer de savoir qui c'est qui est dopé, qui c'est qui l'est pas ouais, et ouais. de passer tout ce temps-là à ne pas s'entraîner à la salle. Et toi, de ton côté, tu passes du temps pour essayer de montrer qui c'est qui est naturel ou pas pour enlever un petit peu la magie des yeux ou les faux bénéfices que promettent certains coachs. Et en fait ça se rejoint ce discours finalement opposé, il se rejoint dans un sens qui est il faut apprendre à s'entraîner comme il faut apprendre la patience, à faire les choses bien. Et à persévérer. Et qu'est-ce que tu dirais toi par exemple à quelqu'un qui dirait sur une vidéo arrêter la chasse au dopé, je veux dire, comment tu défendrais toi ton approche là-dessus?
J'ai des potes à moi dopés, Jérôme, d'accord. Luis Alberto, on parle hein, sur Messenger, machin, etc. Si on n'était pas loin, on aurait pu faire une vidéo ensemble parce que ce type de profil m'intéresse. Tu vois. Ce type de profil m'intéresse parce que j'aime bien débattre. Tu vois. J'aime bien avoir un mec en face de moi qui a les cojones solides et qui peut débattre. Chose que je n'ai pas trouvée chez les autres personnes du fit merde. Je ne vais pas dire du fit game. Parce que les autres, à chaque fois que tu as envie de débattre avec eux pour leur dire « Allez, viens, donne-moi ton palmarès, dis-moi ce que tu en penses de ça, fais-moi une analyse sur ça. Ils s'évadent tous, ils s'en fient. Tu vois, ils ne veulent pas. Parce que moi, j'ai direct, bam, bam, tu vois, dans la gueule. Moi, tu sais, il n'y a pas de… Donc, j'ai des amis à moi dopés, d'accord ? Ils sont honnêtes, ils ne sont pas hypocrites. Chose que je reconnais chez ces mecs-là, c'est qu'ils s'entraînent très, très dur. Ils ont appris, avant même de se piquer, Jérôme, comment leur métabolisme réagit, comment ils doivent manger, comment ils doivent gérer leurs dépenses énergétiques, comment ils doivent se reposer et quand est-ce qu'ils doivent utiliser les produits et dans quel contexte. Ils sont disciplinés. Tu vois ce que je veux dire ? Donc maintenant, pour être honnête, la chasse, etc., c'est la chasse par rapport aux gens qui sont hypocrites. Mais on ne peut pas relever, les amis, on ne peut pas relever le fait que ces gens-là, ils ne sont pas restés sur un fauteuil, entre guillemets, parce que je pense que moi, si tu prends une piqûre de testo dans la cuisse et tu restes dans le fauteuil en train de manger du Nutella et regarder Netflix, je ne pense pas qu'il y ait un quadri qui va pousser tout seul. Hein. Impossible, tu vois ce que je veux dire ? Donc, il faudra que tu charbonnes. Pourquoi tu charbonnes ? Parce que tu es déjà sous chimie. Donc, dans ta tête, c'est psychologique, tu dois te dire, j'ai pris le risque de prendre des produits, il faut que je double limite d'effort pour pouvoir voir le résultat apparaître. Donc, tu sais, j'ai vécu avec et j'ai des athlètes que je connais qui sont dedans, mais on n'en parle même pas de ça. Et je leur pose même pas la question. Parce qu'au fond, je sais, tu sais la réponse, mais il reste des gens disciplinés, ils ne sont pas hypocrites. Il ne va pas te dire, Jérôme, tu sais quoi, moi je suis naturel, je mange de riz, de la dinde et machin. Non. Non, ça peut-être tu vas le trouver chez quelques influenceurs français, mais je pense que j'ai des potes américains et allemands. Impossible qu'il me dise ça. Impossible. Tu sais, limite, des fois, il rigole, il te dit, ouais, voilà, j'ai abusé un peu des produits, c'est pour ça, tu sais, j'ai séché plus vite ou machin, tu vois. À la rigolade, il te le dit, tu vois. Et ça, c'est ce que j'apprécie chez ces gens-là, tu vois, la discipline, tu vois. Mais en France, je ne sais pas, il y en a un putain de potentiel en France, il y en a des athlètes super disciplinés, mais il y en a aussi le côté un peu hypocrite et vendeur de rêves, tu vois. Donc, il y a du tout.
Bon, c'est intéressant, ça permet un petit peu de remettre en perspective les discours de chacun, du pourquoi, du comment. En l'occurrence, c'est vrai que… C'est plus l'hypocrisie ou disons le mensonge qui fait promettre, qui fait miroiter des résultats impossibles qui toi te t'anime. C'est ça, ouais. Et alors bon, j'imagine que tu es devenu un expert de, pas des stéroïdes, mais comment, si quelqu'un aurait un doute par rapport à un athlète ou par rapport à une connaissance, comment, quels sont les signes en fait qui pourrait dire que cette personne utilise des anabolisants ?
Regarde, je vais te dire un truc de suite. Moi, quand quelqu'un il arrive devant moi et me dit « analyse un tel », parce que je pense qu'il prend des produits, Jérôme, je ne vais pas regarder juste le profil et faire « oh, mais lui, il a des gros bras, il a des gros pecs, il doit être stéroïdé ». Non. Il faut que les gens comprennent un peu la chose. Je pars du principe de voir l'évolution, l'historique de la personne. Je vais sur Internet, je cherche. Il y a un peu de recherche, hein, tu vois ce que je veux dire. Il faut que je cherche un peu quand il a débuté, tout ce qu'il poste. Parce qu'à un moment donné, un influenceur, il va commettre une petite erreur. La petite erreur, c'est quoi ? Pour pouvoir vendre du rêve ou non, ou pas, il va poster un truc qui va permettre à vendre, par exemple, le truc qu'il propose, par exemple, un e-book, un coaching, etc. La chose qui va impressionner. Et moi, je vais la.
Ouais, il va vouloir se démarquer sur un résultat.
Voilà. Donc, moi, je vais la prendre. Je vais la comparer à tout le parcours qu'il a posté, toutes les photos, voir les dates. Et par rapport à ça, je vois si l'évolution, elle peut être alliée au naturel ou pas. Pas juste voir le physique. Oui, tu vas me donner le physique, je ne sais pas moi. Tu vas me dire le physique de Lazar Angelov, je vais te dire, ouais, il est dopé. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas me donner Jay Cutler, je vais te dire, il est dopé. Tu vois ? Mais j'ai pas besoin de voir l'historique.
Oui, bon là, il y a très peu de doutes, évidemment.
Voilà. Mais tu vas me donner un.
C'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ancien Mister Olympia. Donc,
voilà.
Donc, pour arriver jusque-là, c'est un joli cocktail en général.
Ouf. Molotov, tu vois. Bon, on s'en fout. Il y a le mérite, il y a tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais bon, au moins, lui, il sait pourquoi il l'a fait. Hein. Ce n'est pas pour aller à la plage, tu vois ce que je veux dire. Au moins, il sait, lui, qu'il a fait ça pour être Mister Olympia, tu vois. Pas pour être monsieur Arcachon ou la Teste de Buch. C'est pas intéressant, ça. Donc voilà un peu, tu sais, pour savoir. Je me base pas direct juste sur la photo, tu vois. C'est pas... Bon, après, il y en a qui c'est flagrant, tu vois. Tu vas me dire Larry Wills, tu vois, le youtubeur Larry Wills qui fait des concours de force, etc. Je sais pas si tu connais, je vois.
Oui, celui qui a fait plusieurs records. Hein.
Voilà. Bon, ben, je vais le regarder. Quand tu vois, déjà, il se fait. Tu vois, sur son Instagram, des fois, les petites évolutions qu'il fait en 15 jours, en 20 jours, etc. Oui, mais c'est pas possible. Il faut une cure de chimie pour rentrer dedans, tu vois. Et déjà, le gabarit qu'il fait avec la musculature, le développement musculaire de chaque groupe musculaire, non, c'est direct. Direct, je dis, non, mais tu vois, j'ai même pas besoin, tu sais, de chercher, tu sais, de partir trop loin. Parce que si lui, il est naturel, je pense que moi, je vais aller faire de la coiffure à la place de la muscu, tu vois. Voilà.
Et les signes physiques, ou en tout cas les muscles qui réagissent le plus vite
à la
première cure.
Trapèze, ouais. Épaule, parce que là, il y a les récepteurs œstrogènes.
Ok, bon, on va essayer de basculer un peu sur le côté un peu plus santé, parce que je suis loin de vouloir inciter au dopage, bien au contraire.
On est là pour la prévention.
Hein. Ouais, non, mais je pense qu'on est, assez sur la même ligne directrice par rapport à ça. Je voudrais maintenant peut-être qu'on discute des effets secondaires, ou en tout cas des effets indésirables que toi, t'as vu, t'as pu expérimenter, alors ouais. Pas toi-même, mais chez des collègues. Si ça peut servir un peu, on parle de santé, donc ça peut servir à dissuader des personnes qui sont encore en train de se poser des questions, peut-être.
Il faut même pas... Tu sais, je vais te dire un truc. Moi, je l'ai dit. Hein. Je crois que j'avais fait une vidéo « Comment réussir sa cure de stéroïdes » ou « Parlant de stéroïdes, machin ». J'ai fait deux parties dessus sur ma chaîne YouTube. En parlant de tout ce que je sais sur les stéroïdes, c'est tout ce que j'ai vu devant moi. Et j'ai dit dans une phrase, Jérôme, j'ai dit « S'il y a des gens qui sont en train de se piquer à l'heure actuelle, arrêtez. Et s'il y a des gens qui ont fait une cure, qui ont eu des gains et qui n'ont pas eu d'effet négatif, remerciez Dieu et dites « Stop ». Vous avez de la chance, c'est bon, stop. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est pas parce que tu as eu de la chance dans la première que la deuxième, ça va être pareil. Hein. Tu es en train de jouer au poker. Hein. Ça passe ou ça casse, tu vois. Bon, maintenant, quand on parle des effets négatifs, il y en a plein. Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. Il y en a qui font des cures où le problème, c'est que quand tu commences à mélanger les molécules, et sachant très bien, je l'ai dit combien de fois dans les vidéos, il y en a qui ne font même pas de bilan de santé, il y en a qui ne font pas d'analyse de santé, pas de prise de sang, ils ne savent même pas leur taux de testo, et tu te charges quand même. Ça veut dire que tu es déjà de base, tu es parti dans le doute. Et autre chose, quand tu ne fais même pas de bilan, tu ne sais même pas si tu n'as pas un problème au niveau du foie, au niveau des reins, au niveau du cœur. Déjà, si tu as des antécédents déjà de base, c'est clair que toi, ton risque déjà d'avoir des problèmes, il est énorme. C'est-à-dire que déjà, avant même d'y penser à ça, c'est-à-dire que tu peux peut-être être malade sans même toucher au produit dopant. Donc, il faut que les gens y réfléchissent avant de se lancer dans ça. La santé ne s'achète pas. Deuxième chose, c'est que les effets négatifs, il y en a des moins durs à encaisser, comme il y en a qui sont très, très durs à encaisser. Mais moi, personnellement, les gars que j'ai vus quand ils utilisaient des stéroïdes anabolisants, surtout en sèche, Jérôme, c'était très, très, très compliqué. Pourquoi? Parce que les produits qu'ils prenaient, ils étaient très nocifs parce que ça augmentait énormément le rythme cardiaque et ça augmente la température de base pour pouvoir sécher. Tu vois, ça joue beaucoup sur le rythme cardiaque. Ils ne dormaient pas, les mecs. Ils n'arrivaient pas à dormir. Leur cœur est batté dans le mille. Limite, des fois, il arrive même à s'emballer le cœur. Donc, je peux te dire que là, si tu perds ton cœur, c'est fini. C'est-à-dire que dans ton sommeil, tu peux mourir. Trembler, comme je peux te dire qu'il y a trembler et trembler. Hein. Tu sais, trembler dans le style, tu peux encore tenir le verre et la bouteille, mais quand tu commences à trembler, on dirait une personne qui a 90 ans, il y a un souci. Tu vois? Donc, les gens qui sont dans ce stade-là, qui écoutent ce podcast, stop, arrêtez de suite, vous allez crever. Il y en a énormément des effets, tu vois. Alors, par contre, après les effets, tu sais, comme perte de cheveux, les boutons, ça c'est, Jérôme, ça c'est jouable. Tu sais pourquoi c'est jouable? Parce que c'est le foie qui commence à se charger et les boutons, ça arrive de ça, tu vois. Et autre chose, parce que c'est les hormones, tu sais, tu as un excès d'hormones, etc. Les cheveux aussi, tu as une perte de cheveux. Mais bon, ça, c'est. Les bodybuilders, généralement, ils finissent tout le temps chauves. Tu le sais très bien. Après, tu as le problème le plus dur à encaisser chez un homme, surtout, c'est le rétrécissement des couilles. Derrière, ça devient des dattes sèches, frère. Des dattes du bled, quoi.
Parce qu'en fait, ouais, c'est ça, mais ceux qui savent, les plus débutants, on va dire, qui se connaissent pas exactement, en fait, quand tu prends des stéroïdes, tu vas t'injecter donc la testostérone ou des dérivés, ouais, qui va te permettre de construire, de récupérer plus vite, de construire plus de masse musculaire, etc., etc. Mais en fait, quand tu mets une hormone exogène, donc qui vient de l'extérieur à ton corps, il a plus de raison d'en produire, donc... il arrête de produire la testostérone, et chez l'homme, donc, ce qui produit la testostérone sont les testicules. Et à ce moment-là, comme les testicules ne produisent plus, bah, finalement, ils n'ont plus raison de prendre autant de place dans l'organisme, donc ils vont s'atrophier. Et c'est ce qui fait que les testicules rétrécissent, évidemment. Et on va dire qu'un des plus gros problèmes qui peut arriver, c'est qu'une fois que tu arrêtes ta cure de stéroïdes, eh ben ton corps, il a un petit peu oublié comment on l'a fabriqué, parce qu'il a passé trop de temps à ce qu'on lui envoie. Donc, il n'arrive plus à relancer, comment on appelle ça.
Une relance, une TCT.
Ouais. Et à ce moment-là, ben, on peut passer, y a certains athlètes qui peuvent passer plusieurs semaines, plusieurs mois sans sécréter de testostérone. Et puis, la testostérone, elle ne sert pas que à fabriquer du muscle, elle sera aussi à l'humeur, à l'ambition, la psychologie, plein de choses.
Tu peux plus t'entraîner, tu n'as plus envie, tu vois ce que je veux dire. C'est très très compliqué cette phase-là, hein. C'est la chute aux enfers, hein. Très très compliqué, hein, tu vois. La testo, ça joue beaucoup, hein. C'est la virilité, tu t'imagines, toi, tu un jour tu te réveilles, tu n'arrives plus à bonder, tes testicules ne fonctionnent pas, c'est fini pour toi, c'est l'enfer, voilà. Ça ne sert à rien d'avoir des gros muscles si ça ne fonctionne pas. Hein. Tu vois ce que je veux dire?
Donc voilà un petit peu les effets négatifs ou indésirables qui peuvent survenir par rapport à une cure. Alors évidemment, on ne dit pas que ça arrive à chaque fois, on ne dit pas tous les signes arrivent à chaque fois. Ça dépend, y en a qui vont dire que ça dépend comment c'est fait. Évidemment qu'en fonction des dosages, en fonction de la manière dont c'est utilisé. Mais bon, je veux dire, si on revient quand même à l'essentiel, c'est déjà apprendre à faire les choses, apprendre à s'entraîner, apprendre à connaître son corps, à savoir comment il réagit, à bien se nourrir. Je veux dire, bon, c'est vrai que c'est un petit peu différent entre vouloir faire de la compétition, vouloir faire son métier, et puis faire de la musculation, entretenir son corps, c'est quand même deux choses un petit peu différentes. Alors, dans le processus, on est là pour construire, on est là pour se faire du bien, et pas pour se tuer. Mais enfin, ça, c'est chacun, il voit ses ambitions, quoi.
Après, franchement, j'ai envie d'ajouter un truc, c'est avant même d'apprendre les bases de faire une cure de stéroïdes, apprenez à bien manger, à bien vous entraîner. C'est mille fois mieux. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Apprenez ça. Et je pense qu'après, quand les produits vont arriver, il y a plus de chances que ça réussisse. Ça veut dire que votre cure, elle va être réussie. Mais je pense qu'il y en a plein qui se dopent, mais ils ne savent même pas manger et s'entraîner. Voilà. À mon avis, hein.
Ça se voit en salle de sport assez régulièrement. Ce qui est dommage aussi, c'est que cette notion de mérite, elle existe peut-être de moins en moins, alors qu'on est tous d'accord qu'avoir eu des résultats par son mérite. Alors après, c'est difficile à juger un mérite, parce que quelqu'un qui prend le Mister Olympia, Ronnie Coleman, ouais, bah, il a du mérite aussi, et pourtant, il n'est pas naturel. Donc la distinction n'est pas facile à faire. Mais on va dire que pour des personnes qui n'ont aucune ambition d'en faire leur métier, et d'ailleurs je vous invite à écouter les podcasts précédents, il n'y a plus de place là-dedans, je veux dire, les influenceurs qui gagnent de l'argent par rapport à ça, je veux dire, ils se comptent sur les doigts d'une main, et enfin bref, et j'ai un petit peu perdu le fil de ce que je disais, mais oui, si on est un sportif lambda, en fait, il y a quand même plus de mérite, on va dire, à s'alimenter, à comme il faut, à bien s'entraîner, à avoir un rythme de vie sain, à avoir des habitudes de vie qui servent notre longévité, plutôt que finalement aller faire une cure ou prendre 10 kilos de muscles. Pourquoi au final, en fait? Juste pour impressionner la voisine, qui en général n'a rien à foutre, ou les copains de salle, qui de toute façon dans un an auront arrêté parce que c'est pas leur passion. C'est un petit peu ça. Je sais pas si tu es d'accord avec,
Moi, avec ce que je dis. Moi, je veux dire un truc. Il y en a plein parce qu'ils veulent tout de suite. Ils veulent le muscle suprême de suite. Mais pensez-vous, les amis, que si ça vient trop vite, tous ces muscles, ça vient trop vite, pensez-vous, est-ce que ces muscles-là sont de qualité ? C'est tout. C'est tout ce que j'ai envie que les gens comprennent. Pensez-vous vraiment que vous allez arriver à les entretenir ? Parce que le plus dur, les amis, en muscu, ce n'est pas d'avoir les résultats. Le plus dur, c'est de les entretenir sur du long terme. C'est-à-dire que même avec une cure, tu as gagné 10 kilos, mais est-ce que sur les 10 kilos, tu arriveras à les garder les 10 kilos ? C'est ça la question.
Alors, ce qui me fait rebondir aussi sur cette souffrance, donc vraiment donner tout ce qu'on a, ne pas lâcher, cette vie de galérien que tu dis de temps en temps sur tes vidéos, ce qui m'amène à me dire en fait que devenir coach sportif, c'est plus du tout le nouvel Eldorado.
Alors là, ça me fait marrer, tu sais, certaines personnes, quand je croise, tu sais, dans les salles de sport, quand ils voient Maître Cal et tout, tu vois, on dirait qu'ils ont vu Michael Jackson, tu vois. Bon, c'est marrant, tu vois. C'est marrant dans le sens où, bon, voilà, parce qu'ils t'ont vu à travers une tablette, un téléphone, un ordi, tu vois. Bon, il est choqué parce qu'il te voit devant lui, tu vois. C'est pas le même volume, tu sais, dans l'espace, tu, dans son ordi ou son téléphone, tu vois. Mais c'est la même personne, tu vois, c'est des petites voix. Mais ils pensent, eux, que quand tu fais des vidéos, tu es connu, machin, etc. Tu vas rouler en Porsche Cayenne, machin, etc. D'ailleurs, la vidéo que j'ai faite la dernière, bon, c'était un peu ironique hein, parce que je voulais un peu, tu sais, faire comme un hameçon, tu vois, comme un piège aux gens, tu sais. Ils disent, ouais, il y a moyen, tu sais, d'avoir… Non. Un coach sportif, tu sais, qu'il est connu ou pas, je te le dis clairement, s'il va par exemple travailler dans une salle de sport, il aura quoi, 1004, 1005 à faire la serpillière, à travailler, à donner des cours collectifs et à même pas s'épanouir dans son travail, parce qu'il aura des charges, le patron il va lui dire de faire ci, de faire ça, machin, il aura même pas le temps de s'entraîner comme il veut, machin et tout. Après, il y en a qui sont, deuxième cas, il y en a qui sont plus solides, ils sont en auto-entrepreneur. Par contre, auto-entrepreneur, t'as des clients, t'as un chiffre d'affaires, t'as pas de clients, t'as rien, tu crèves, c'est simple. Ça passe ou ça casse. Combien de coachs sportifs, ils ont des diplômes, ils ont arrêté d'être coach sportif, ils sont partis faire mécanicien, coiffeur, bâtiment, machin. Des milieux plus sûrs. Ça, c'est un métier de passionné, Jérôme, de base. Si tu es passionné, tu peux faire quelque chose. Heureusement, moi, dans la vie, je te le dis clairement, heureusement, tu sais que moi, j'ai mes coachings en ligne, tu sais, des fois, je prépare quelques athlètes, j'ai des coachings. Bon, soyons honnêtes, le fait d'être connu, bon, pas connu juste pour faire des vidéos, machin, etc., mais connu parce que tu as un parcours, ils ont vu ton évolution, tu as du mérite, donc les gens, ils viennent vers toi parce qu'ils savent que tu es naturel, que tu as fait une évolution, tu sais ce que ça veut dire s'entraîner, etc. Donc, ces gens-là, ils te contactent. S'ils sont de la région, bah, tu les coaches physiquement, et s'ils sont à l'international, bah, tu les coaches en coaching en ligne, etc. Quoi. C'est clair que oui, ça ramène un peu, tu sais, les réseaux sociaux, mais… Il ne faut pas s'attendre à que tu gagnes 5, 10, 15 000 euros par mois.
Et surtout qu'avant d'avoir une visibilité sur les réseaux, d'avoir une crédibilité, il va falloir poster du contenu, il va falloir faire des choses qui se différencient, être régulier, etc., etc. Ça, c'est encore un autre problème. C'est les dessous des affaires, en fait, hein, qu'on ne voit pas, a priori.
C'est un boulot monstre. Ça, c'est... Après, je te le dis, hein, c'est, tu postes des vidéos, tu as des posts sur Instagram, tu as les stories Instagram, tu as Facebook. Il y a beaucoup de boulot, tu vois. Heureusement, tu sais que moi, je n'ai pas de sponsor, je n'ai pas de liaison, je n'ai pas envie de dire ça comme ça. Je ne suis pas la pute à personne. C'est-à-dire que moi, je ne vends pas mon cul pour un pot de whey. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que non, no way. Tu vois. Moi, le jour où je signe avec quelqu'un, c'est-à-dire que je suis libre de faire ce que je veux sur ma chaîne ou sur mon truc. C'est pas, il faut que tu... poste, 3 posts dans la semaine sur Instagram, il faut que tu fasses… Non. J'ai pas envie, tu vois ce que je veux dire? Moi, quand j'ai pas envie de faire une vidéo, Jérôme, je le fais pas. Voilà, c'est simple. Je veux rester libre comme ça, tu sais. Et puis après, il y a un boulot monstre, il y a un boulot énorme. Hein, parce que le jour, franchement, je te dis, moi, je reste une semaine sans poster sur Instagram ou je reste genre 10-15 jours sans faire de vidéos sur YouTube. J'ai des gens qui t'envoient des messages, t'es passé où, Maître Cal, hein? Tu vois ce que je veux dire? T'es où? Tu fais quoi? Pourquoi tu n'es pas là? Tu vois? se sont habitués, c'est fini. Tu vois. Je pense que c'est devenu leur quotidien tous les soirs de passer sur le Netflix de Maître Cal, regarder ce qu'il parle, ce qu'il dit. Tu vois. Voilà.
T'as une espèce d'engagement, en tout cas, il faut que tu perdures dans ce que tu offres. Et c'est pas ce qui paye directement, en tout cas.
Non.
En tout cas, très peu. Mais ok. Bon, non, mais c'est intéressant. C'est très intéressant. J'aimerais, avant qu'on parle de la compétition que tu as fait cette année, j'aimerais qu'on discute un petit peu de blessures qui sont liées au sport.
D'accord.
C'est un peu le fil rouge de ce podcast, généralement. Est-ce que toi, tu as déjà été blessé? Tu as déjà eu des douleurs spécifiques, en tout cas, qui se sont maintenues par rapport à la pratique de la musculation? Peut-être d'abord et peut-être d'autres sports derrière. Et comment ça t'a... Comment ça a impacté en tout cas ta vie et ton entraînement et tes habitudes?
Alors, je t'explique. En muscu, j'ai jamais eu de blessure. Alors, pourquoi je te le dis, j'ai jamais eu de blessure? Parce que je suis un mec qui connaît vraiment ses limites, chose que j'incite les gens à faire. C'est-à-dire, quand je regarde une barre, moi, connaissant au fil du temps, avec mon expérience, je me dis, bon, cette barre-là, elle fait 200 kilos au soulevé de terre, bon, allez, je pense que je peux faire 3-4 reps. Tu vois ce que je veux dire? Mais. Si je fais les 3-4 reps, je sais, non, je ne fais pas 5 et 6. Parce que je sais que 5 et 6, il y a des doutes où je vais me blesser. Mais je pense que cette phase de sagesse dans la tête, il faut du temps pour l'acquérir. Parce que les gens d'aujourd'hui, les blessures, c'est soit un surentraînement, soit une compétition. Parce que, tu sais, dans la salle, il y en a qui se font la compète. J'ai jamais fait la compète à quelqu'un, moi, mais la compète, on l'a fait sur la scène, hein, tu vois, on l'a fait pas dans la salle. Qui soulève le plus, machin, etc. À ce moment-là, il faut aller faire des concours de force. Tu vois. Y a des fois l'exécution du mouvement, tu vois, suivant, bien sûr, ta morphologie, etc. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Mais moi, je pense que l'erreur qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de débutants, c'est l'échauffement. C'est l'échauffement, c'est-à-dire que la personne, elle arrive, bam, bam, elle met direct au squat, elle commence à taffer, bam, bam, elle arrive direct. Ils ne font pas de série de préparation du muscle à encaisser ce qui va arriver après. Moi, c'est ça le truc. Moi, je ne me suis jamais blessé, tu sais, en muscu. Hein. Je touche du bois, tu vois. Je ne sais pas comment te dire ça. Hein. Ouais, voilà, y a des gens qui vont dire, ouais, mais parce que tu ne t'entraînes pas. Non, mais je m'entraîne. Je crois plus que 90% qui vont regarder ce podcast. Tu vois ? Parce que pour être honnête avec eux, alors quand je suis hors compète, je peux faire 6-7 séances par semaine, entre 6 et 7, à hauteur de 1h30, 2h, tu vois. Ça veut dire que c'est entre 12 et 13 heures, tu sais, par semaine. Et quand je suis en compète, ça veut dire que je m'entraîne deux fois par jour, à hauteur d'une heure et demie, ça veut dire que 3 sur 6 jours, 18 heures de sport par semaine, tu vois. Donc, à un moment donné, pour un naturel, ouais, c'est clair, l'été précis. Par contre, je te le dis, je réduis le temps du travail. Avec mes coachings, etc., je les réduis. Je fais beaucoup, tu sais, de siestes, surtout, pour bien récupérer. Parce que moi, Jérôme, je te le dis, je pense que le meilleur remède, c'est le repos. Franchement, il y a autre chose. Je ne prends ni compléments alimentaires, ni rien du tout. Ça fait 6 ans. J'ai fait même des prépas compètes. Ni whey, ni BCA. Rien, rien. Que l'alimentation et le repos. Et j'ai vu la différence. Tu vois. Mais bon, je reviens toujours au même truc. Prendre le temps d'apprendre qu'est-ce qu'il te faut comme aliment, qu'est-ce qu'il te faut comme entraînement, qu'est-ce qu'il te faut comme heure de repos. Ça, il faut du temps.
Est-ce que tu es suivi en médecine, par exemple, médicalement? Tout à l'heure, tu me parlais de faire des analyses de sang, même sans utiliser de stéroïdes.
Moi, je suis le seul YouTuber qui avait déjà fait des vidéos par rapport à ça. Les bilans, faire tous les ans des bilans. J'en ai fait une vidéo, Jérôme. Je te jure que tu peux la trouver sur YouTube. Je faisais même, style, une fois, je me rappelle, je voulais, parce que tu sais, pour aller voir ton médecin ici en France, pour lui demander de te faire une analyse pour connaître ton taux de testo, impossible. Hein. Il y a des médecins qui vont dire non. Ils vont dire... Tu peux faire, tu sais, une analyse pour savoir un peu créatinine, tu vois, voilà, si tes reins fonctionnent bien, etc. Tu sais, le truc d'urine, de sang. Mais savoir si ton taux de testo, il est bien ou pas, impossible. si t'as pas des problèmes, tu sais, et à ce moment-là, il faut voir un spécialiste,
endocrinologue, ouais.
Voilà, merci beaucoup.
Ça, je t'en prie.
Ouais, mais je te jure, hein, tu sais, ça, c'est le plaidard qui revient. Donc, si tu vas pas voir un mec comme ça, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut que tu t'affiches complètement. Ah oui, j'ai un problème. J'arrive pas à bonder. Et il faut que tu affiches un problème. Tu vois ce que je veux dire, pour que tu puisses connaître tes taux de testo en France. Hein. C'est pas, tu sais, comme les pays.
Mais c'est un petit peu. Oui, oui. Non, mais je te coupe, mais c'est exactement la même chose ici au Canada, ou en tout cas au Québec. Pour connaître ces données, pour connaître ces analyses, sans douleur, sans problème de santé, c'est une histoire aussi. Hein.
Ah, c'est pour ça que je t'ai dit que faire déjà des bilans sur. Moi, tous les ans, je fais des bilans sur le cœur. Tu sais, je fais des radios, tout ça, le foie, les reins, les poumons, tu vois, et je fais le test d'effort. Je connais le test d'effort par rapport au cœur et tout ça, tu vois. Après, moi, je ne suis pas fumeur, rien du tout, tu vois. Donc, je vois, tu sais, dans l'ensemble, c'est ça.
Pour ceux qui ne voient pas exactement à quoi consiste le test d'effort, est-ce que tu pourrais le décrire juste brièvement?
C'est sûr, on te met, tu sais, des électrodes, tu sais, sur la poitrine et tout. On te met sur un tapis. Et à un moment donné, tu sais, tu as un médecin, tu sais, qui arrive à côté de toi. Tu sais, soit il te met sur un tapis, un vélo, etc. Et tu sais, tu as des phases où il te dit d'accélérer, de freiner, d'accélérer, de freiner pour voir un peu, tu sais, si ton cœur, il suit ou pas déjà et comment il arrive à récupérer. Et là, tu sais, il va écouter le cœur, il va l'écouter, il va mettre sur un écran, tu vois, il va l'écouter, tu sais, tu vas l'entendre, même, tu sais, avec des haut-parleurs et tout ça. Moi, je t'avoue un truc. Moi, personnellement, je suis suivi et je suis suivi par un médecin parce que moi, j'ai le cœur d'un sportif de haut niveau. De base, j'étais joueur de foot professionnel quand j'étais jeune. Donc, je courais beaucoup, tu vois. J'étais arrière central, hein, tu vois, défenseur principal. Alors, quand tu galopes dans le terrain à fond. Et c'est pour ça, ça aussi, ça m'a aidé un peu, tu sais, dans la muscu. Parce que comme j'enchaîne tellement les exercices et tout ça, j'ai une force à être plus résistant et endurant pendant la séance. Donc, le cœur, il s'est habitué à ça. Et c'est-à-dire que moi, je peux monter, tu sais, 10 étages d'un immeuble. Alors, au 10e étage, je vais être un peu essoufflé, Jérôme. Tu vois ce que je veux dire? Mais pas au 2-3 étages, je vais être essoufflé. Impossible. Pas comme un pote à moi, tu sais, par exemple, qui fume. En 2 étages, il est cuit, tu vois. Il monte avec moi et il est mort. C'est pour ça, moi, je dis l'élément moteur, surtout, les gens qui écoutent ça, l'élément moteur, c'est le cœur. Surtout dans notre milieu, la muscu. Le cœur. Tu ne peux pas le remplacer, tu vois. C'est impossible.
Pour terminer sur le test d'effort, effectivement, en général, il t'amène au bout de ce que tu peux. Hein. Il essaie d'aller sur les limites cardiaques. Et c'est pour ça que ça se pratique en clinique. Pour si jamais tu fais un arrêt cardio-respiratoire, qu'il puisse directement te prendre en charge, il y a tout ce qu'il faut autour.
Voilà. Après, moi, je ne suis pas arrivé à ce stade-là. Je suis arrivé à... Bon, j'aime bien le challenge, moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand c'est chaud, j'aime bien. À chaque année, quand j'y vais, tu sais, je fais ça tous les ans, tous les deux ans. Ils me connaissent. Hein, tu vois, bon, ils regardent un peu, tu vois. Ils disent, ouais, t'as pris un peu de masse, ça va, tu vois. Ils voient le cœur et tout ça. Ils disent, ouais, tout va bien, tu sais. Parce que t'as toujours le même rythme durant l'année et le même effort que tu fais tous les mois, tu vois. Donc, je pense que si t'arrêtes pendant 6 mois, ça ne sera pas la même chose. Parce que la reprise, elle va être dure. Même pour ton cœur, elle va être dure, la reprise. C'est pour ça, les gens qui arrêtent la muscu, qui reprennent, allez-y mollo, ne brusquez pas votre corps. C'est pas parce que vous l'avez brusqué que vous allez avoir plus de résultats plus rapidement. Impossible. Trop du temps, tu vois.
C'est quoi tes meilleures approches sur la santé? Est-ce que tu es suivi, par exemple, tu pratiques l'ostéopathie? Enfin, tu pratiques, non. Est-ce que tu es suivi en ostéo? Est-ce que tu vois des kinés naturaux?
Alors, je t'explique, moi, mon histoire avec les kinés. C'était très, très compliqué de trouver un kiné des sports. Je ne sais pas si tu connais, kiné des sports, tu sais, qui s'occupe que des athlètes. Tu vois, ça veut dire que les mecs, ils font un peu de course à pied, triathlon. Alors moi, je suis tombé sur une personne qui est devenue mon élève. Ça veut dire que je suis rentré dans le cabinet. Elle m'a suivi pendant mes prépas, compète et tout ça. Tu vois, parce que des fois, tu sais, quand tu prends un peu de masse au niveau du grand dorsal, etc., tu vois, il y a beaucoup de choses, tu vois. Quand tu charges beaucoup sur les épaules, tu as le deltoïde, tu vois, le deltoïde avant qui commence à tirer un peu. Donc, elle essaie toujours, tu sais, de vouloir te le. Tu as des courbatures, etc. Donc, moi, je suis suivi, surtout pendant les prépas compètes. C'est-à-dire que toutes les semaines, je suis à une à deux fois chez un kiné des sports. Et je trouve que le travail qu'elle fait, il est monstrueux. Parce que franchement, je te dis, des fois, j'arrive sur place, je me dis que je n'arriverai pas à faire la séance épaule du soir. Quand je sors de chez elle, je suis soulagé. Je fais une séance de ouf le soir même. Tu vois, c'est chacun son truc. Hein. Tu vois, elle a fait des études, etc. Tu vois, elle connaît l'effort et la discipline que je fais. Et par rapport à ça, tu vois ce que je veux dire, elle va te masser, elle va t'étirer, elle va te donner des exercices d'étirement, etc., etc. Et au fil du temps, cette personne-là, quand elle a vu, tu sais, les prépas que je fais, les prises de masse, les sèches, etc., elle est venue s'entraîner dans ma salle et elle est devenue mon élève. Donc, c'est moi qui gère un peu sa diète, son entraînement et tout ça. Donc, c'est juste pour dire qu'on peut travailler en collaboration avec un kiné des sports et tout ça. C'est hyper intéressant.
Et est-ce que tu as déjà vu un ostéopathe ?
Bien sûr, il a la même chose. Quand j'étais en Vendée, je ne sais pas comment te dire ça. À chaque fois que je rentre dans un cabinet ostéopathe, au kiné, etc., ils font un travail de ouf. Hein. Tu sais, quand ils te craquent le cou, tu vois le dos, etc. Mais pareil, il m'a suivi pendant une compète, je m'en rappelle. Et après, on s'est croisé dans une salle de sport. Et il a commencé à s'entraîner avec moi. Et par la suite, c'est moi qui a géré sa diète et tout ça. Tu vois. Donc, mais par contre, je te dis de suite, ostéopathie et kiné, il y a une différence quand même, Jérôme.
Ah bah bien sûr qu'il y a une différence et je vais pas te contredire. Hein.
Voilà, tu vois, c'est un ostéopathe, je pense que des fois quand t'es, franchement, je te le dis clairement, quand t'es coincé du dos à bloc, je vais donner un exemple, j'ai eu un pote à moi il y a une semaine, il était coincé du dos, je pense qu'il a eu une lumbago, tu vois, un truc comme ça, il est parti voir un ostéo, bah ça l'a soulagé. Il est parti voir un kiné. Non, pas du tout. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas la même chose.
Ouais, c'est des approches un petit peu différentes. On n'agit pas sur les mêmes choses, on n'a pas exactement les mêmes objectifs. Effectivement, c'est assez réputé qu'en ostéopathie, tu vas voir l'ostéo quand t'es bloqué, quand t'as l'impression que t'as une vertèbre qui coince, en fait. C'est un petit peu l'idée qu'on s'en fait. Effectivement, l'ostéopathe il va travailler sur les muscles autour, il va relâcher la zone, il va redonner de la mobilité à une vertèbre qui en aurait perdu, par exemple, sur un mouvement, sur une contracture ou autre. Ça fait partie un petit peu de l'arsenal des outils de l'ostéopathe. On peut travailler aussi sur l'équilibre, la posture, la mobilité, rendre un petit peu le corps apte à absorber ses propres contraintes, à s'adapter. C'est un petit peu l'objectif. J'inviterai un kiné sur le podcast pour vraiment discuter de tout ça, de l'approche que peut avoir un kiné. Complètement. Surtout vraiment lié en essayant d'avoir cette vision sur le sport, sur l'athlète. C'est un petit peu mon objectif, notamment dans ce podcast, par exemple. Mais écoute, je trouve ça cool, là, ton expérience, c'est intéressant. Est-ce que tu vois d'autres, comment on peut appeler ça, d'autres thérapies, d'autres médecines parallèles, par exemple ? Tout à l'heure, j'ai parlé de la naturo ou d'autres.
Franchement, du tout. Moi, je suis plutôt, j'ai mon kiné des sports qui me suit. Ça, c'est sûr et certain. Tu vois, c'est lui qui me suit par rapport au prépa, etc. Et elle m'a aidé beaucoup aussi au niveau de la posture. Parce que nous, tu sais, quand on fait les compétitions en mince physique, le dos, il faut qu'il soit ouvert comme une planche. Tu vois ce que je veux dire ? Et il faut que la taille soit en V. Tu vois, quand tu fais la position du dos, tu sais, la pose dos, c'est back to the judge. Bon, excuse-moi, je vais dire en anglais, mais bon, ça veut dire que le dos face au juge, tu vois. Il faut que ton dos soit bien ouvert, bien symétrique. Il n'y a pas une épaule plus haute qu'une autre ou machin, tu vois ce que je veux dire. Et ça te fait la V-tape, ça te fait en V, tu vois.
Il faut vraiment essayer de sortir le grand dorsal au maximum pour le déployer là, comme des ailes.
Du coup, moi, j'avais au début... J'avais un petit souci qui était, entre guillemets, les rhomboïdes, ils étaient un peu plus développés, bien développés, tu sais, les rhomboïdes, et du coup, j'étais un peu courbé vers l'avant, tu vois. Donc, au fil du temps, j'avais pris un peu plus de dos, et elle m'a expliqué qu'il fallait balancer un peu entre le dos et les pecs, parce que tu sais, il y a une relation entre dos et pecs, tu vois, si tu prends beaucoup des pecs et ton avant d'épaule, il prend un peu plus le dessus, donc tu vas être courbé vers l'avant, tu vois. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé un peu plus sur l'arrière de l'épaule et le dos. Enfin, on a éclaté le grand dorsal et l'arrière de l'épaule. Et du coup, je me suis redressé un peu mieux. Et du coup, à ce moment-là, j'arrivais bien à faire mon posing et surtout, essayer de ressembler le maximum possible à un athlète physique. Ah, il y a du travail, hein, tu sais, Jérôme. Hein, tu sais, être un athlète, ce n'est pas juste avoir le corps. Il y a la posture, il y a le posing, il y a beaucoup de choses. Tu vois.
Eh ben, la transition est parfaite, puisque j'aimerais qu'on parle justement de cette compétition un petit peu avant de terminer. Donc, tu as pris la décision en 2019 de faire une compétition de bodybuilding dans la catégorie men's physique. Il y a plusieurs catégories en compétition, en fait, de bodybuilding. Je laisse pour les plus intéressés, ceux qui ne connaissent pas, aller regarder un petit peu sur Google les différentes catégories. Mais on va dire que le men's physique, c'est ce qui va se rapprocher le plus du physique... c'est péjoratif, mais de plage, dans le sens où
il
y a un short.
Plage. C'est les kékés de plage.
Voilà, c'est ça. Sauf qu'en fait, ce sont des kékés de plage que tu retrouves pas sur la plage parce que qu'il y a une un gros travail qui est fait.
Voilà.
Et alors, pourquoi tu as décidé de faire cette compétition? Est-ce que tu avais envie de te prouver quelque chose?
Alors, je t'explique déjà. J'en ai fait cette année-là. J'en ai fait 4 normalement. J'étais censé faire 4. Ok. J'en ai fait une en Allemagne. D'accord. J'en ai fait une en Slovaquie. J'en ai fait une à Paris et normalement, je devais faire un pro qualifier en Italie. Donc, maintenant, cette envie, mais de toute façon, alors regarde, quand tu es coach sportif passionné, faire de la compète, on dirait c'est le Graal, on dirait c'est le bout. C'est un, tu vois ce que je veux dire, c'est le dernier point, l'arrêt final de ton tramway ou de ton train. Tu vois ce que je veux dire, c'est la dernière station. Entre guillemets. Je pense pour moi, hein, tu vois ce que je veux dire. Hein, parce que être coach sportif, être passionné, pratiquer à bloc, si tu deviens discipliné et être athlète, ça veut dire que tu as touché au maximum possible au truc. Et surtout, si tu arrives à gérer aussi au niveau alimentaire, parce qu'une diète pour une compète n'a rien à voir avec une diète juste pour perdre un peu de poids, tu vois ce que je veux dire. Hein, ça n'a rien à voir. Tu vois. Et c'est deux mondes différents. C'est l'extrême là. Parce que sur la scène, tu montres la meilleure shape de ta life. C'est des mois et des mois et des mois de diète à bloc comme un ouf pour arriver à faire quoi 5-10 minutes sur la scène. Alors, bon, après, voilà, 5-10 minutes, des fois, tu gagnes un peu de doigt. Bon, maintenant, moi, je me suis dit, pourquoi pas un naturel se lance dans les compètes. Pourquoi pas? C'est ce que je dis. Et où le problème?
Mais tu savais que tu allais faire face à des mecs qui avaient utilisé qui étaient dopés et que... Tu partais vraiment avec un désavantage
Mais bien sûr. Mais je me suis dit, c'est... Alors, regarde. Quand je suis parti en Allemagne et en Slovaquie, en Allemagne, j'ai fini avant-dernier. Ah, mais moi, tu sais, je suis quelqu'un de cash. Hein. Tu vois, j'ai fini avant-dernier. Pas de problème. J'étais critiqué, jugé, tout ce que tu veux. J'avais pas bien géré ma recharge et tout. Il n'y a pas de problème. En Slovaquie, j'avais un tout petit peu... Parce qu'il y avait une semaine entre les deux... Dans la semaine, j'avais géré un peu plus de recharge, j'avais rectifié quelques détails. J'ai fini quatrième, tu vois. Et par la suite, j'ai fini deuxième à Paris. Tu vois. Et en Italie, je peux te dire que j'avais montré aussi ma shape et tout ça, parce que j'étais censé faire la compète, mais j'ai eu un contre-temps et tout. Mais en 6 mois, entre la deuxième compète que j'ai fait en Slovaquie et la compète que j'ai fait à Paris, déjà, il y avait 4-5 kilos plus de masse. Et j'étais plus sec parce que au fil du temps que tu fais des compètes, Jérôme, tu apprends à connaître qu'est-ce qu'il te faut pour sécher, comment tu dois gérer ta recharge les derniers jours, parce que je peux te dire que ton physique, il peut changer à la dernière semaine. C'est pour ça qu'il faut que tu sois tout le temps prêt une semaine à l'avance. Une semaine avant la date de la compète, le physique que tu veux avoir sur la scène, il est là. Comme ça, tu fais tout le temps les petits derniers détails que tu dois faire, les diurétiques, etc. Tu coupes l'eau, machin. Et par la suite, tu arrives, bam, parfait sur la scène. Parce qu'arriver comme ça, la dernière, ça c'est l'erreur que j'ai faite moi, c'était au début que je comptais toujours sur la dernière semaine pour que ça joue. Non, non, c'est l'erreur que j'ai faite. Maintenant, c'est clair, net et précis qu'il y a des dopés sur la scène, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, j'y vais déjà, première chose, pour me faire plaisir, déjà pour le mérite de soi, et autre chose, pour dire à mes spartiates et tout ça, que tout est possible quand on est motivé à 300%. Hein. C'est naturel, tu peux monter sur la scène avec des dopés, il est où le problème? Que je finis dernier, je veux dire, j'ai fini dernier, que je finis premier, ben voilà, je me suis battu, c'est tout. Mais oui, des fois, tu sais, ça te fout les boules parce que le mec, il a même pas 3 ans de muscu, il a un physique mieux que toi. Ouais, mais c'est pas grave. Tu travailles mieux et tu reviens l'année d'après et pourquoi pas, tu vas gagner.
Et qu'est-ce que tu as appris de plus sur toi pendant cette préparation que ce que tu ne savais déjà pendant tes longues années d'entraînement en fait, et de diète?
Alors, comme je t'ai dit, hein, je reviens à la même chose. S'entraîner pour une compète n'a rien à voir pour s'entraîner juste pour faire de la masse. Tu vois, une prépa compète, on ne laisse aucun droit à l'erreur. On ne laisse pas de place pour les regrets. Rien ne vient au hasard. Ça veut dire quoi? Quand moi, je fais une diète cito de 45 jours en cito, zéro sucre, zéro sel, je mange des brocolis, haricots verts, poulet, 5 repas par jour. Si le mental n'était pas là, mon Jérôme, tu n'arriveras jamais à résister à la tentation. Parce que la tentation, elle est énorme. Dans ton entourage, la tentation, elle est énorme. Quand tu vois ton fils qui mange du Nutella, des Kinder, tout ce que tu veux, la tentation, elle est énorme. Quand ta femme, elle te dit « viens, on sort au resto », la tentation, elle est énorme. Quand tu croises des potes qui te disent « allez, viens, on va aller boire un café, un machin, etc. » et par la suite, ils vont aller manger un kebab ou un mag, la tentation, elle est énorme. Mais j'ai appris juste un truc, c'est que le mental, il était en place. Ça veut dire que j'ai réussi à tenir la diète, ça veut dire que les gens qui nous écoutent et peuvent aussi réussir grâce à leur mental à tenir une diète. Pas tout le monde est capable, mais seuls les forts mentalement peuvent le faire.
Et c'est quoi maintenant le futur de Maître Cal? Alors, est-ce que tu as prévu de faire d'autres compétitions? Tu as des projets à venir?
Alors, franchement, pour être honnête, je sais que c'est peut-être arrogant ce que je vais dire, je pense, tu vois, me lancer peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. Je vais prendre le temps qu'il me faut pour faire une compétition, mais une compétition vraiment très, 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 très lourde où il y a zéro naturel, que ça soit bien clair. Zéro de chez zéro.
C'est quoi les compétitions où tu es sûr d'avoir zéro naturel?
Alors, si par exemple, on commence à faire un NPC, tu vois, l'NPC Olympia et tout ça, tu sais, les pro qualifiers pour gagner une carte pro, tu vois. Ah là, c'est zéro, je ne cherche même pas. C'est-à-dire que les gens, ils viennent à bloc pour gagner une carte pro, donc impossible. C'est-à-dire que c'est les futurs pros, tu vois ce que je veux dire, les futurs pros qui vont l'année prochaine être pro, tu vois. Donc, c'est impossible que ces mecs-là soient naturels. Donc maintenant, il y a les compétitions, tu peux trouver l'Olympia en Espagne, tu peux trouver l'Olympia au Portugal, tu peux trouver partout dans le monde, tu peux les trouver même aux États-Unis, etc. Je vais me lancer le défi de faire une comme ça. Pourquoi pas? C'est l'une des meilleures compétitions qui existent dans le monde, donc pourquoi pas la faire? Plus le challenge il est dur, Jérôme, même si j'ai une gifle extra-nucléaire dans la gueule, je dis, ouais, voilà, je l'ai fait. J'ai ma petite photo avec tous les mecs balèzes sur la scène. Voilà. Au moins, ils auront un peu la différence entre le naturel et le chargé, tu vois.
Ok, non, mais écoute, c'est top, non? Le ton est donné, on va essayer de suivre ça. J'imagine que tu t'en feras des vidéos, en tout cas des vlogs.
Ah, oui.
Non, mais. Tu m'as dit que c'était prévu pour
Soit fin 2020 ou début 2021. Parce que comme j'ai pas mal de projets aussi en cours, parce que j'ai, comme je t'avais dit, j'ai la transition peut-être de ma salle de sport ou peut-être une ouverture sur Bordeaux, etc., d'une autre salle, d'une autre structure. Donc du coup, je pense qu'il faudra déjà avoir la tête tranquille pour pouvoir faire une prépa, tu sais.
Bon, avant de terminer, j'ai pour habitude de poser trois petites questions.
D'accord.
À la fin de chaque podcast. Alors, première question, quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui commence le sport, ou en tout cas la musculation en l'occurrence, et qui n'y connaît rien?
Alors, première chose, les amis, il n'y a pas de conseil miracle, de remède miracle, de produit miracle. Ça n'existe pas. Le miracle, il est en vous. D'accord. Maintenant, soyez un peu plus intelligent. Qu'est-ce qu'on a, nous, les coachs sportifs, de plus que vous, des débutants? Nous, on a pris juste le temps d'apprendre. C'est tout. On n'a pas de talent. D'accord. Maintenant, prenez-vous le temps de faire quelques recherches et de trouver ce qui fonctionne sur vous et de jeter le reste à la poubelle. Quand vous écoutez des informations, ne copiez pas bêtement. Testez, regardez ce qui marche sur vous et jetez le reste à la poubelle, que ce soit alimentaire ou sportif.
Deuxième question, quel a été ton modèle ou ton mentor et qui l'est peut-être encore aujourd'hui?
Moi, mon mentor, il est mort. Mais, je dis comme ça à la rigolade. mon mentor, c'était James, c'était un Américain qui m'a tout appris, qui a vu en moi une personne qui allait réussir en muscu, chose que tout le monde n'a pas cru. Tout le monde n'a pas cru en moi que j'allais un jour faire une prise de masse, prendre du muscle, etc. Parce que moi, j'étais une crevette. Bon, maintenant, je suis un petit homard de Norvège. Hein. Voilà, je ne suis pas encore le gros homard. Mais moi, au début, quand je faisais mes 50 kilos, quand je rentrais dans les salles de sport avec les bodybuilders, j'étais un cure-dent, hein. J'étais une baguette. Hein. Donc, moi, mon mentor, il a vu en moi la flamme d'apprendre la muscu. Donc, c'était lui, mon modèle. Hein. Parce que ce n'était pas mon modèle dans le physique. C'était mon modèle dans la sagesse et dans le mental. C'est lui qui m'a transmis tout ça. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a transmis même la méthode allemande et tout ça.
Voilà. C'est quoi la méthode allemande?
Alors, il y en a certains qui disent que la méthode allemande, ils ont cru que c'était la méthode du 10x10, etc. 10 séries de 10 et tout. Parce qu'il y en a, il y a déjà une méthode qui s'appelle la méthode allemande. Moi, je l'ai appelée la méthode allemande, c'est juste parce que moi, je l'ai appris en Allemagne. C'est tout. Maintenant, la méthode allemande, c'est chaque personne a là son propre programme d'entraînement suivant son rythme de vie, suivant à quelle heure il peut s'entraîner, ses habitudes alimentaires, etc., etc. En quelque sorte, la méthode allemande, c'est le programme le plus personnalisé possible suivant le cas qu'on a devant nous. Et ce programme-là, sûr et certain qu'il va te donner le maximum possible parce que tu peux le varier et qu'il va évoluer au fil de temps de ta progression. Voilà la méthode allemande, en quelque sorte. Pour certaines personnes, ils ont cru que c'était tu t'entraînes avec du 4x6, du 4x8, du 4... Non. C'est-à-dire que plutôt, c'est du travail du cas par cas.
Voilà. Top. Et enfin, dernière question, est-ce qu'il y a un livre qui t'aurait particulièrement marqué, que tu recommanderais aux éditeurs aujourd'hui aux éditeurs, non, aux auditeurs. Il n'y a pas d'éditeur ici. Enfin, s'il y en a un qui se manifeste. Ouais, peut-être pour éditer un livre à toi, si tu as envie d'écrire un livre un jour. Bon, bref, je ne sais pas pourquoi je raconte ça. Est-ce que donc il y aurait un livre alors, ça peut être sur le sport ou pas nécessairement, mais quelque chose qui t'a marqué dans ta vie.
Alors franchement, Jérôme, je vais être honnête, ils vont me tuer, moi, les gens qui auraient écrit. Alors, je vais dire clairement, parce que moi, je suis quelqu'un qui... Franchement, c'est... J'aime pas mentir. Tu vois, j'aime pas mentir parce que j'aime bien dormir la nuit tranquillement. Je ne regarde aucun YouTuber sur Internet. Que ce soit bien clair, hein. Je ne lis aucun magazine. Je ne lis aucun bouquin. Je te jure, hein. Et je sais qu'ils vont me tuer, les gens, ils vont dire, ouais, comme ça, là, 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 tu t'intéresses à la muscu, etc. Ouais. Mais moi, je suis quelqu'un qui expérimente beaucoup sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Quand je vais prendre, par exemple, voilà, avant de terminer, quand je vais prendre une machine devant moi, je sais que cette machine-là, elle bosse le dos. Tu vois? Mais moi, je vais me dire, bon, si je la prends dans cette position-là, je peux peut-être solliciter l'épaule. Donc, je vais tester avec la sensation et tout ça, et je vais la tester sur 3-6 mois pour voir qu'est-ce qu'elle sollicite comme partie du muscle, etc. Et par la suite, c'est moi qui va l'adopter par rapport à mes élèves, etc. Mais des fois, tu sais, pendant les rencontres dans les salles de sport, tu rencontres des gens qui sont dans le milieu, qui sont des professionnels du métier, où tu partages avec eux. C'est-à-dire que pour moi, je préfère 1000 fois partager avec les gens en live que lire ou regarder des vidéos et tout ça. C'est rare, hein. Chez moi, c'est très, très rare.
Bon, écoute, avant de terminer, je voudrais quand même saluer ton honnêteté, hein, pendant toute cette interview. Je pense que les auditeurs auront appris énormément de choses. Enfin, j'espère qu'ils auront appris des choses, qu'ils auront appris peut-être à mieux te connaître, mieux connaître ton parcours. Et surtout, ce que je retiens, moi, c'est que tu es plutôt humble par rapport à tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais aujourd'hui. Donc, je pense que ça mérite d'être souligné.
Merci beaucoup, mon Jérôme. Bon, après, c'est le but. Hein. C'est le but. Hein.
Si on veut te suivre ou te contacter, où c'est qu'on peut te retrouver sur le web?
Oh, bah alors là, même sur Google, tu tapes Maître Cal, tu vas en trouver plus chaud. Alors, il y a mon Instagram, Maître Cal, la chaîne YouTube Spartiate Plus TV, ou sinon, après, il y a le Facebook Spartiate Gym, la teste de bûche. Voilà.
Très bien. Bah, je laisserai les liens en description de l'épisode. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ou un dernier message à vouloir faire passer?
Moi, je vais dire la dernière chose, mon Jérôme. Si tu veux du muscle, tu shit ta race. Motherfucking motherfucker. C'est tout ce que j'ai envie de dire. C'est tout.
Je te remercie d'être passé sur le podcast Biomécanique. Je te dis
c'est un grand plaisir.
Je te dis à bientôt pour peut-être un prochain épisode.
Ça marche. Bye bye. Ciao ciao.
Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je remercie encore une fois Maître Cal d'être passé dans le podcast, d'avoir joué le jeu et répondu à mes questions avec sincérité. Si cet épisode vous a plu, je vous propose de le partager à quelqu'un de votre entourage qui s'intéresse à l'entraînement, à la musculation, qui s'intéresse à sa santé également. Vous pouvez lui partager ce podcast. C'est un format long. Il en apprendra peut-être plus et il aura une vision un petit peu plus large, un petit peu plus une vision d'ensemble par rapport à ce qu'il a pu voir sur Maître Cal et sur d'autres youtubeurs qui parlent de tous ces sujets. Je me répète encore une fois, je sais, je radote sur ce podcast et puis malheureusement, je crois que ça va pas être fini. Mais si vous avez apprécié cet épisode, si vous appréciez le podcast, toute l'émission audio dans son ensemble, de toute façon, et que vous n'avez pas encore laissé une petite évaluation sur l'application Apple Podcast, je vous encourage fortement à le faire. Tout simplement parce qu'à chaque fois que vous laissez une évaluation sur Apple Podcast, vous sauvez un petit chaton d'une mort affreuse et triste. Évidemment, c'est pas vrai, mais en tout cas, vous me faites plaisir. Et je trouve ça bien aussi, si vous voulez me faire plaisir. Et en dehors de me faire plaisir, parce que bon, à la limite, pour ceux qui aiment le podcast, mais qui en ont strictement rien à foutre de me faire plaisir, ben c'est juste que vous aidez à propulser un petit peu plus le podcast biomécanique dans les rankings d'Apple. Et donc, il y a d'autres personnes qui le découvrent. Il y a de plus en plus d'écoutes. Donc, il y a de plus en plus d'intérêt. J'ai de plus en plus d'invités, de plus en plus de contenu, etc. C'est un cercle vertueux où tout le monde est content. Donc je vous invite à me laisser une petite évaluation et laisser un commentaire également pour me dire ce que vous en pensez. Évidemment, si le podcast ne vous plaît pas, je vous encourage plutôt à ne plus l'écouter plutôt que de me laisser un avis négatif. Évidemment, à la limite, si vous souhaitez manifester votre colère, je vous invite à m'écrire directement par message personnel. On pourra peut-être régler votre problème personnel. Allez, une dernière fois, je rappelle que vous avez le lien de la lettre biomécanique pour recevoir directement tous les épisodes dans votre boîte mail. C'est le dernier lien qui est en description ou dans les notes de l'épisode. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment où vous avez écouté cet épisode. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Biomécanique. Bye bye.